Le gentil petit diable et autres contes de la rue Broca par Pierre Gripari, première cassette, deuxième face, page 30. La deuxième histoire s'appelle « Roman d'amour d'une patate ». Il était une fois une patate, oui, une pomme de terre, une vulgaire patate comme nous en voyons tous les jours, mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite. Et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si le petit garçon de la maison ne l'avait pas volé dans la cuisine. Une fois retiré dans sa chambre avec le fruit de son larcin, de son vol, le petit garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la patate. Il commença par lui faire deux yeux et la patate pouvait voir. Après quoi il lui fit deux oreilles et la patate pouvait entendre. Enfin, il lui fit une bouche et la patate pouvait parler. Puis il la fit se regarder dans une glace en lui disant « Regarde comme tu es belle !»«
Quelle horreur !» répondit la patate. « Je ne suis pas belle du tout. Je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. »«
Oh bon, ça va !» dit le petit garçon vexé. « Puisque tu le prends comme ça, plouf !» Il la jeta dans la poubelle. Au petit matin, la poubelle fut vidée et le jour même, la patate se retrouvait dans un grand tas d'ordures, en pleine campagne.
« Joli pays, dit-elle, et fort bien fréquenté, il y a ici des tas de gens intéressants. Tiens, qui est cette personne qui ressemble à une poêle à frire ?»
C'était une vieille guitare, à moitié fendue et qui n'avait plus que deux cordes.
« Bonjour madame, dit la patate. Il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à frire.
Vous êtes bien aimable, dit la guitare. Je ne sais pas ce que c'est qu'une poêle à frire, mais je vous remercie quand même. C'est vrai que je ne suis pas n'importe qui, je m'appelle guitare. Et vous?
Eh bien, moi, je m'appelle pomme de terre, mais vous pouvez m'appeler patate, car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. J'avais été choisi à cause de ma beauté pour devenir frite. Et je le serais devenu si, par malheur, le petit garçon de la maison ne m'avait pas volé à la cuisine. Bien plus, après m'avoir volé, le sacripant m'a complètement défiguré en me faisant deux yeux, deux oreilles et une bouche.
Oh. La patate se mit à larmoyer.
Allons, ne pleurez pas, dit la guitare. Vous êtes encore très bien, et puis cela vous permet de parler.
Ça, c'est vrai, reconnut la patate. C'est une grande consolation. Enfin, pour en finir, lorsque j'ai vu ce que le petit monstre avait fait de moi, je me suis mis en colère, je lui ai pris son couteau des mains, je lui ai coupé le nez et je me suis enfui.
« Vous avez très bien fait, » répondit la guitare.
« N'est-ce pas ?» dit la patate. « Mais vous, au fait, comment êtes-vous venu ici ?»«
Eh bien, moi, » répondit la guitare, « pendant de longues années, j'ai été la meilleure amie d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement. » Il se penchait sur moi, me prenait dans ses bras, me caressait, me tapotait, il me grattait le ventre en me chantant de si jolies chansons.
La guitare soupira. Puis sa voix se fit aigre et elle poursuivit.
Un jour, il est revenu avec une étrangère, une guitare aussi, mais en métal, et lourde, et vulgaire, et si bête. Elle m'a pris mon ami, elle l'a ensorcelé, je suis sûr qu'il ne l'aimait pas. Quand il la prenait, elle, ce n'était pas pour lui chanter des chansons tendres, non. Il se mettait à la gratter avec fureur, en poussant des hurlements sauvages. Il se roulait par terre avec elle, on aurait dit qu'il se battait.
D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle. La meilleure preuve, c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse. En vérité, le jeune et beau garçon avait acheté une guitare électrique, et ce que la guitare avait pris pour une laisse, c'était le fil qui la reliait à la prise de courant.
Enfin, toujours est-il qu'il me l'a volée. Au bout de quelques jours, il ne voyait plus qu'elle, il n'avait plus un regard pour moi. Et moi, quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai préféré partir.
La guitare mentait. Elle n'était pas partie d'elle-même. C'était son maître qui l'avait jetée, mais cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris.
« Ah, comme c'est beau, dit-elle. Comme c'est touchant, votre histoire me bouleverse. Je savais bien que nous étions faites pour nous comprendre. D'ailleurs, plus je vous regarde et plus je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire. »
Mais pendant qu'elle parlait ainsi, un cheminot, un clochard, qui passait sur la route, les entendit, s'arrêta et les écouta.
« Ça, C'est pas ordinaire, pensa-t-il. Une vieille guitare qui raconte sa vie à une vieille patate et la patate qui répond. Si je sais m'y prendre, ma fortune est faite.
Il pénétra dans le terrain vague, prit la patate, la mit dans sa poche, puis se saisit de la guitare et s'en fut à la ville prochaine. Dans cette ville, il y avait une grande place, et sur cette grande place, il y avait un cirque. Le cheminot alla frapper à la porte du directeur.
Monsieur le directeur, monsieur le directeur!
Hein, quoi? Entrez! Qu'est-ce que vous voulez?
Le cheminot entra dans la roulotte.
Monsieur le directeur, j'ai une guitare qui parle.
Hein, quoi? Guitare qui parle?
Oh oui, monsieur le directeur, et une patate qui répond.
Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sous, mon ami? Non, non, je suis pas sous. Écoutez seulement.
Le cheminot posa la guitare sur la table, puis il sortit la patate de sa poche et la mit près d'elle.
Allez-y maintenant, parlez toutes les deux.
Silence.
Ben quoi, vous avez bien quelque chose à dire?
Silence.
Mais parlez que je vous dis!
Toujours silence et silence.
Le directeur devint tout rouge.
Dites-moi, mon ami, vous êtes venu ici pour vous payer ma tête?
Mais non, monsieur le directeur, je vous assure, elles parlaient toutes les deux. En ce moment, elles font leur mauvaise tête exprès pour m'embêter, mais...
Sortez, dit le directeur.
Mais quand elles seront toutes seules, sortez, je vous le dis.
Mais monsieur le directeur...
Hein? Quoi? Vous n'êtes pas encore sorti? C'est bon, je vais vous sortir moi-même.
Le directeur prit le cheminot par le fond de sa culotte et... Vrouf! Il l'envoya dehors. Mais à ce moment-là, il entendait dit derrière lui un grand éclat de rire. C'était la patate qui, n'y tenant plus, disait à la guitare. Hein? Crois-tu qu'on l'a eu?
Et comment qu'on l'a eu? Répondait la guitare.
Le directeur se retourna. Alors comme ça, c'était donc vrai?
Vous parlez toutes les deux?
Silence.
Allez, reprit le directeur, inutile de vous taire maintenant, ça ne sert plus à rien. Je vous ai entendu.
Silence.
Dommage, dit le directeur d'un air rusé. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique.
Artistique? Dit la guitare. Tais-toi donc, souffla la patate. Mais l'art, ça m'intéresse, moi, dit la guitare.
À la bonne heure, dit le directeur, je vois que vous êtes raisonnable. Eh bien oui, vous allez travailler toutes les deux, vous allez devenir vedette.
J'aimerais mieux devenir frite, objecta la patate.
Frite? Vous? Avec votre talent, mais ce serait un crime. Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette?
Pourquoi manger?
Ça se mange donc les frites? Demanda la patate.
Un petit peu que ça se mange. Pourquoi donc croyez-vous qu'on les fasse?
Ah ben je ne savais pas, dit la patate. Eh ben si c'est comme ça, d'accord, j'aime mieux devenir vedette. 8 jours plus tard, dans toute la ville, on pouvait voir de grandes affiches jaunes sur lesquelles il était écrit « Grand cirque truc machin, ses clowns, ses acrobates, ses écuyères, ses équilibristes, ses tigres, ses chevaux, ses éléphants et ses puces. Et en grande première mondiale, Noémie, la patate savante, et Agathe, la guitare qui joue toute seule. » Le soir de la première représentation, il y eut beaucoup de monde, car personne dans le pays n'avait jamais encore vu une chose pareille. Quand leur tour vint d'entrer en piste, la patate et la guitare s'avancèrent gaillardement pendant que l'orchestre jouait une marche militaire. Pour commencer, la patate elle-même annonça le numéro. Puis la guitare joua toute seule un morceau difficile. Puis la patate chanta, accompagnée de la guitare qui chantait une deuxième voix, tout en jouant d'elle-même. Enfin, la patate fit semblant de chanter faux et la guitare fit semblant de la reprendre. La patate fit semblant de se fâcher et toutes les deux firent semblant de se disputer à la grande joie du public. Et pour finir, elles firent semblant de se réconcilier et chantèrent ensemble le dernier morceau.
Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré pour la radio et la télé, de sorte qu'on en parla dans le monde entier. Le sultan de Pétaouchnok, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'en fut voir le directeur du CIF.
Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur le sultan. Qu'y a-t-il pour votre service?
Je veux épouser la patate.
La patate? Mais voyons, ça n'est pas une personne.
Alors je vous l'achète.
Mais ce n'est pas une chose non plus. Elle parle, elle chante.
Alors je vous l'enlève.
Mais vous n'avez pas le droit.
J'ai le droit de tout, car j'ai beaucoup d'argent.
Le directeur comprit qu'il valait mieux ruser.
Vous me faites beaucoup de peine, dit-il en larmoyant. Oh, cette patate, je l'aime, je m'y suis attaché.
Comme je vous comprends, dit le sultan légèrement ironique. Eh bien, en ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants.
Un seul? Demanda le directeur.
Deux, si vous voulez. Le directeur essuya une larme, se moucha bruyamment, puis ajouta d'une voix tremblante.
Je sens que si vous alliez jusqu'à trois...
Eh bien donc, trois, et n'en parlons plus.
Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre « Nous nous aimons ». Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement « Le Parlement osera-t-il empêcher ? Va-t-il briser le cœur de la patate ? La patate nous dit en pleurant « Cela ne peut plus durer ». La guitare nous dit « Je préfère m'en aller ». Et cependant, elle s'aime. L'amour plus fort que tout. Avec ce dernier titre, étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose, et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié.
La troisième histoire s'appelle « La maison de l'oncle Pierre ». Dans un village de France vivaient deux frères, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche était célibataire, le pauvre était marié. Le riche vivait de ses rentes et ne travaillait pas, le pauvre était ouvrier agricole. Le pauvre n'avait pas de maison à lui, mais il vivait avec sa femme chez le fermier qu'il employait, tandis que le riche, lui, avait une grande maison situé à moins d'un kilomètre du village, un peu après le cimetière. Le pauvre était gentil avec tout le monde et ne demandait qu'à rendre service. Aussi, les gens du pays l'aimaient bien, tout en le méprisant un peu. Le riche, lui, était avare, d'un caractère dur et renfermé, de sorte que les gens, tout en le respectant beaucoup, ne l'aimaient guère. Un beau matin, le fermier qui était le patron du pauvre dit à ce dernier « Voici la fin de l'automne. Les gros travaux sont terminés, je n'ai pas assez d'argent pour te payer à ne rien faire. Prends ta femme avec toi et va-t'en. »
Que faire?
Et où aller? Le pauvre prit sa femme et s'en fut chez son frère, le riche. « Notre patron nous chasse, lui dit-il, et nous n'avons pas même un toit pour passer l'hiver. Tu ne peux pas nous héberger jusqu'au printemps prochain. » Le riche fit la grimace. Il aimait bien être seul et tranquille dans sa grande maison. Cependant, il ne pouvait pas non plus laisser son frère dehors. Il répondit.
Eh bien, c'est entendu. Installez-vous. Vous coucherez dans la chambre du haut et moi dans la grande salle en bas. Mais attention, à une condition.
Laquelle?
C'est que vous ne sortirez pas le soir après dîner et que vous serez couché à 9 heures au plus tard.
Entendu, dit le pauvre.
Et le même jour, il s'installait avec sa femme dans la chambre du haut. Pendant 3 mois, ils vécurent ainsi. La femme du pauvre faisait la cuisine et le pauvre lui-même, dans la journée, parcourait le village à la recherche de menus travaux. Le riche, pendant ce temps, ne faisait rien, restait plongé dans ses pensées. Ils prenaient leur repas ensemble et après le dîner, sitôt la table desservie, le pauvre et sa femme disaient bonsoir au riche et montaient se coucher. Le riche veillait très tard dans la grande salle du rez-de-chaussée où sa lampe à pétrole brillait jusqu'à 1 heure avancée de la nuit.
Qu'est-ce qu'il peut faire si tard, tout seul? Demandait la femme du pauvre.
Et le pauvre lui répondait, il fait ce qu'il veut, il est chez lui.
Mais la femme voulait savoir. Un beau soir, sur le coup de 11 heures, elle descendit doucement l'escalier, pieds nus et sans lumière.
La porte de la salle était entrebâillée. Elle s'approcha sans faire de bruit, et elle vit son beau-frère assis à la grande table, avec posé devant lui une petite boîte en fer d'où il tirait des pièces d'or qu'il empilait les unes sur les autres. Elle remonta et dit à son mari : « Je sais ce que fait ton frère. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il compte de l'or. Et pourquoi pas ? C'est son or après tout. » Passèrent décembre, puis janvier. Un beau matin, vers la mi-février, la femme du pauvre descendit pour allumer le feu et faire le café. Le riche était encore couché. Elle s'approcha du lit et s'aperçut qu'il était mort subitement pendant la nuit. Le pauvre, en l'apprenant, fut sincèrement peiné. Les deux frères s'aimaient et s'estimaient, malgré leurs différences de caractère. Le matin même, le couple s'en fut chez le notaire. Le riche n'ayant pas d'enfant, tous ses biens revenaient au pauvre, lequel, par conséquent, n'était plus pauvre. L'après-midi de ce même jour, le mari et la femme visitèrent la maison en détail. Ils trouvèrent de l'argent liquide et des titres de rente assez pour assurer leur subsistance jusqu'à la fin de leur jour. Mais la femme n'était pas satisfaite. « Il y a de l'or caché dans cette maison, disait-elle, j'en suis sûre, je l'ai vu !» Ils fouillèrent partout de la cave au grenier, sans trouver ni l'or, ni la petite boîte en fer. « Tu as peut-être rêvé, » dit le mari. « Je suis bien sûr que non, » répondit la femme. « J'ai vu de l'or, des pièces d'or, dans une petite boîte en fer, comme une boîte de biscuits. Mais il l'a bien caché. » « Alors tant pis, » dit le mari. « D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons bien assez. » Le lendemain, l'enterrement eut lieu, et ce soir-là, pour la première fois, le mari et la femme, au lieu d'aller se coucher, restèrent après le dîner dans la grande salle du bas. Ils y étaient encore à minuit. À peine les 12 coups venaient-ils de sonner à l'église du village qu'ils entendirent derrière eux une voix rude.
« Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici ?»
Ils se retournèrent, c'était le riche, ou plutôt son fantôme, habillé comme de son vivant. « C'est toi, Pierre ?» demanda le pauvre. Le fantôme reprit sans répondre.
« Je crois vous avoir dit que vous deviez être couché tous les soirs à 9 heures. »«
Mais maintenant tu es mort, » objecta le pauvre.
« Qu'est-ce que tu dis ?» demanda le fantôme d'une voix terrible.
« Je dis que tu es mort. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»«
On vous raconte que vous êtes mort, » dit la femme brutalement. « Enfin quoi, vous ne vous rappelez pas, même qu'on vous a enterré ce matin ?»
À ces mots, le fantôme se mit en colère.
« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une invention pour me voler mon bien, n'est-ce pas ? Voilà ma récompense pour vous avoir reçu dans ma maison. Et vous vous figurez que je vais croire ça ? Allez, au lit, et en vitesse !»
Le couple tout penaud remonta dans sa chambre. Le mari se déshabilla, se coucha, puis il dit à sa femme.
« Pourquoi est-ce que tu ne te couches pas ? »
La femme répondit. « Tout de même, je vais aller voir ce qu'il fait. »«
N'y va pas, » dit le mari, « ça n'est pas prudent. »
La femme haussa les épaules. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse ?»
Elle descendit comme la première fois, pieds nus et sans lumière, et comme la première fois, elle vit par la porte ou entr'ouverte son beau-frère installé à la grande table en train de compter ses pièces d'or. Mais cette fois, le fantôme devina sa présence. À peine l'eut-elle aperçu qu'il se tourna du côté de la porte en criant
« Et alors ?»
La femme terrorisée remonta 4 à 4.
« Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda son mari.
« Il compte toujours son or, » dit-elle. Le lendemain, ils allèrent trouver le curé du village pour lui demander ce que tout cela signifiait. Après avoir écouté leur histoire avec la plus grande attention, le curé leur dit « La chose est rare, mais elle arrive parfois. Une grande passion, bonne ou mauvaise, peut empêcher une âme de trouver le repos. Votre frère aimait trop son or. C'est pourquoi son fantôme revient chaque nuit le compter et le recompter.
Mais pourtant, il est mort, dit le pauvre.
Il est mort, mais il n'accepte pas sa mort, dit le curé. Il ne veut pas l'admettre. Vous aurez beau discuter avec lui, il refusera de voir sa vérité. Son avarice le retient ici-bas. « C'est une grande misère, il faut avoir pitié de lui. »«
Alors, il n'y a rien à faire ?» dit le mari.
Eh non, il n'y a rien à faire, dit le curé. Cela durera jusqu'au jour où lui-même se rendra compte de l'absurdité de sa conduite. Ce jour-là, il sera délivré. Mais cela peut demander des siècles. L'homme et la femme n'insistèrent pas. De toute façon, ils n'étaient pas à plaindre, puisqu'ils avaient de l'argent liquide et les titres de rente du défunt. Ils achetèrent quelques champs, une petite maison dans le bourg où ils s'installèrent et vécurent à l'abri du besoin, l'homme travaillant la terre et la femme s'occupant de son intérieur. Ce printemps-là, ils eurent un petit garçon et l'année d'après, une petite fille. Les deux enfants grandirent, marchèrent, parlèrent. Au bout de 5 ou 6 ans, ils allèrent à l'école. Tous les dimanches après-midi, ils allaient se promener. Leur mère, cependant, les mettait en garde. « N'allez pas du côté du cimetière et surtout, surtout n'entrez jamais dans la maison de votre oncle Pierre. Il se fâcherait. » Elle ne leur en disait pas plus, car elle ne voulait pas leur faire peur inutilement. Mais voilà qu'un beau soir de printemps, les enfants furent surpris par l'orage alors qu'ils étaient justement de l'autre côté du cimetière. Il pleuvait fort, très fort, il y avait des éclairs et cela menaçait de durer, car le ciel était noir et la lumière livide. « Entrons dans cette maison, » dit la petite fille. Le petit garçon, qui avait bien reconnu la maison de l'oncle Pierre, hésita une seconde. Puis il se dit que le village était encore loin, que sa petite sœur risquait de prendre mal, et qu'enfin l'oncle Pierre, si peu hospitalier fut-il, ne pouvait pas leur refuser l'abri. Ils pénétrèrent dans la grande salle, ils y trouvèrent un lit qui n'avait pas été refait, semblait-il, depuis des années. Ils se déshabillèrent, étendirent leurs vêtements trempés sur les dossiers des chaises, puis se couchèrent bien au sec et s'endormirent. Ils dormaient sans le savoir depuis plusieurs heures, quand ils furent réveillés par une voix bougonne.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»«
Pardon, monsieur, dit le petit garçon, nous sommes entrés pour nous mettre à l'abri. Nous n'avions pas l'intention de rester, nous nous sommes endormis. »
« Je le vois bien que vous vous êtes endormi. Qui êtes-vous d'abord? Comment vous appelez-vous »
Le petit garçon donna son nom et celui de sa sœur et leur nom de famille. Le fantôme souleva les sourcils.
« Alors comme ça, vous êtes mes neveux ?»«
Oui, mon oncle. »«
Je comprends maintenant. C'est mon frère qui vous a envoyé ici pour m'espionner, pour me voler peut-être. »«
Vous vous trompez, mon oncle. Je vous assure. Au contraire, nos parents nous ont dit de ne jamais entrer chez vous. » Tout est de ma faute.
Vos parents vous ont dit. Et pourquoi vous ont-ils dit cela d'abord? Est-ce que je suis un ogre?
Ben, pour ne pas vous déranger, mon oncle, sans doute.
Allons donc. Moi, je le sais pourquoi ils vous l'ont dit. Pour vous faire peur de moi. Voilà. Ils veulent me faire passer pour mort, pour me prendre mon or. Quel or, d'abord? Il n'y a pas d'or ici. Et qu'est-ce que j'en ferai? Mais je ne suis pas mort, hein, ça non. Tant que je serai ici, ils n'auront pas une pièce d'or. D'ailleurs, il n'y a pas de pièce d'or. Je n'ai rien, moi. Il n'y a rien d'autre ici que les 4 murs, c'est tout. Tu pourras le dire à ton père. Compris?
Oui, mon oncle.
Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Rhabillez-vous et filez tous les deux.
Les deux enfants, qui n'avaient rien compris à ce flot de paroles, se rhabillèrent. Ils allaient sortir quand le fantôme les arrêta.
Eh bien, où allez-vous? Vous voyez bien qu'il pleut encore. Restez ici et déshabillez-vous. Vos habits sont encore tout humides. Et on dira encore que je n'ai pas de cœur. Étendez-les devant le feu.
Mais il n'y a pas de feu, dit le petit garçon.
Pas de feu? Et ça alors?
Le fantôme fit un geste et un grand feu apparut dans la cheminée.
Prenez chacun une couverture. Approchez-vous. Échauffez-vous. Aussi bien vous m'avez dérangé, je ne peux plus travailler cette nuit. Je vais me chauffer aussi. Une soirée de fichu est par votre faute.
Excusez-nous, mon oncle.
Taisez-vous. Est-ce que je vous demande quelque chose? Oh, je sais bien. Il y en a plus de 4 qui voudraient savoir. Mais ils ne sauront rien. Qu'est-ce que vous avez cru? Que j'allais vous montrer mes petits secrets? Pas si bête. Et d'abord, il n'y a pas de secret. Il n'y a ici que les 4 murs et c'est tout. Rien de plus. Rien de plus.
Ils étaient tous les 3 assis devant le feu. Les enfants enveloppés chacun dans une couverture et le vieux ronchonnant à mi-voix, beaucoup plus pour lui-même que pour eux. Au bout de quelques instants, engourdi par la bonne chaleur, bercé par le murmure continu de l'oncle Pierre et vu l'heure tardive, le petit garçon s'endormit sur sa chaise. Un éclat de rire le réveilla. C'était sa petite sœur qui riait. Il ouvrit aussitôt les yeux et vit une chose étonnante. L'oncle Pierre s'était endormi lui aussi et la petite fille avait voulu monter sur ses genoux. Elle s'était levée, s'était approchée du fauteuil et traversant le corps impalpable du fantôme, elle s'était assise dans l'oncle Pierre, ce qui la faisait rire. Cette fois, le petit garçon eut peur. Non pas de voir que l'oncle Pierre était impalpable, ma foi, puisque c'était comme ça, c'était comme ça. Mais peur qu'il ne se fâche, peur qu'il ne considère la conduite de la petite fille comme un manque de respect à son égard. « Excusez-la, dit-il, elle a voulu jouer. » Mais l'oncle Pierre n'écoutait pas. Réveillé à l'instant, lui aussi, il regardait d'un air bouleversé la petite fille assise dans son ventre, qui riait et se balançait en agitant ses deux petits pieds nus.
« C'était donc vrai, murmura-t-il, c'était donc vrai. »
Puis son regard se posa sur le petit garçon et il lui demanda d'un air sérieux.
« Ça te fait rire, toi aussi ?»«
Non, mon oncle. »«
Ça te fait peur, alors ?»«
Non, mon oncle. »
L'oncle Pierre pinça les lèvres, puis il eut un sourire méchant et demanda encore.
« Sais-tu ce que c'est qu'un fantôme ?»«
Non, mon oncle. »
Il y eut un silence. La petite fille s'était tue. Le fantôme paraissait réfléchir. Puis il se leva et dit
« Attendez-moi, je reviens. »
Il sortit. À ce moment-là, la petite fille, restée toute seule dans le fauteuil, prit peur et se mit à pleurer. Le petit garçon la prit sur ses genoux. Au bout de 5 minutes, le fantôme revint avec une petite boîte en fer qu'il posa sur la table.
« Demain matin, vous donnerez ça à vos parents. Et maintenant, couchez-vous. Adieu. »
Les enfants se couchèrent et s'endormirent presque aussitôt. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, il faisait grand jour, et l'oncle Pierre avait disparu. Ils remirent leurs vêtements, qui avaient séché pendant la nuit, et rentrèrent chez leurs parents avec la petite boîte en fer pleine de pièces d'or. Il y a des gens dans le pays qui prétendent que cette petite boîte n'a jamais existé et que cette nuit-là, les enfants n'avaient fait qu'un rêve. En ce qui concerne la petite boîte, il m'a été impossible de vérifier. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que depuis ce jour, le fantôme de l'oncle Pierre n'est plus jamais revenu dans la vieille maison. Fin de la troisième histoire, la maison de l'oncle Pierre. Fin de la deuxième face de la première cassette, page 53, Le gentil petit diable et autres contes de la rue Broca, par Pierre Gripari.